France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France porte dans son ADN la question de la laïcité. Nous avons célébré avec joie les 120 ans de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Et nous avons ainsi affirmé notre volonté, non seulement de fêter cette laïcité, mais aussi de préserver la liberté de conscience. C'est cette liberté de conscience, ciment du vivre ensemble, qui fait en ce moment l'objet d'une réflexion de tous les frères de la Grande Loge de France. C'est pour en parler que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui trois invités qui vont nous donner leur vision de cette liberté de croire. Je suis très heureux de vous les présenter. Le rabbin Stéphanie van Tittelboom, vous êtes rabbin de la synagogue de Beaugrenelle à Paris. Vous appartenez à l'équipe rabbinique de judaïsme en mouvement. Vous êtes diplômé de sciences politiques, mais aussi de l'école du Louvre et de l'Institut national de gémologie. C'est dire si vous connaissez aussi l'art de tailler et de dégrossir les pierres. Bonjour.
Bonjour.
Le pasteur James Woody, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à la paroisse d'Auteuil à Paris. Vous êtes attaché au courant du protestantisme libéral et vous avez été directeur de la rédaction du journal Évangile et Liberté. Bonjour. Et enfin, pour que le ternaire soit parfait, Dominique Lauzet. Dominique Lauzet, vous êtes franc-maçon, membre de la Grande Loge de France, vous y êtes très actif et vous en êtes notamment le grand officier à la culture. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors je le disais, nous allons parler aujourd'hui de liberté de conscience, de liberté de croire. Vous êtes tous et toutes autour de cette table des femmes et des hommes de foi. Une première question simple, c'est quoi croire et quelle place gardez-vous dans cette croyance à la liberté ? Stéphanie van Tittelboom.
Alors moi j'ai envie de commencer par deux blagues juives. Toujours comme ça qu'on commence. C'est Moshe qui se pose des questions sur le fait de croire en Dieu. Et son rabbin lui dit, mais qui vous le demande ? Et c'est aussi l'histoire de ce même Moshe qui passe tous les samedis matins, il passe devant la synagogue. Et le rabbin le voit et lui dit, mais Moshe, je te vois tous les samedis matins devant la synagogue. Tu viens jamais à l'office, pourquoi tu viens pas ? Oh, tu sais, Rabbi, c'est compliqué. Mais il faut que je te pose une question, Moshe. Est-ce que tu crois en Dieu ? Et Moshe lui dit, écoute Rabbi, je peux pas te répondre maintenant. On se revoit demain, je te donnerai la réponse. Le lendemain, dimanche, Moshe rencontre à nouveau son Rabbi. Et son Rabbi lui dit, bon allez maintenant Moshe, tu peux me répondre. Est-ce que tu crois en Dieu ? Et Moshe lui dit, non. Et le rabbin lui fait, mais si c'était aussi simple, pourquoi tu ne l'as pas dit hier ? Et Moshe lui dit, ah non, pas à Shabbat Rabbi. Donc c'est dire qu'en fait, le judaïsme... C'est pas une question de croire, c'est surtout une question de faire. Et c'est vraiment le paradoxe, je pense, du judaïsme. C'est qu'on peut pratiquer les fêtes, on peut pratiquer le rituel, on peut être juif, on peut jeûner à Kippour, sans forcément croire en Dieu. C'est au-delà. C'est d'abord faire, et ensuite, en faisant, on comprend. C'est le naasé, je fais, venishma, et je comprends parce que j'ai fait. Et c'est aussi le sens, enfin, je vais faire une analogie. Le mot foi en hébreu, c'est très compliqué à traduire, c'est Emouna, mais c'est la même racine que Omanot. Et Omanot, en fait, c'est l'artisan. Donc on est vraiment dans le faire.
Alors James Woody, vous êtes protestant. Est-ce qu'il y a une approche différente de la croyance, de croire ?
On pourrait dire que chez nous, l'inverse est possible. On peut être croyant sans être pratiquant, en quelque sorte. Alors, il y a deux façons de comprendre le mot « croire ». Il y a la première, c'est « il faut croire une liste de choses, une liste de doctrines, et si on coche toutes les cases, on peut être réputé comme croyant ». Et puis, il y a l'approche plus protestante, la foi comme confiance. Et au fond, c'est la confiance dans le fait que les paroles qui sont contenues dans la Bible, les paroles qui sont transmises par la tradition, sont des paroles qui nous font vivre. Et cette confiance que l'on place dans la parole, c'est au fond la confiance que l'on place en Dieu, Dieu qui désigne toutes ces paroles, qui tracent un horizon de vie idéale, de vie bonne, de vie humaine en quelque sorte. Et donc, le fait de faire confiance dans cette parole, c'est pour nous ce qui désigne la foi.
Et donc, vous avez tous les deux une grande liberté, finalement, dans cette croyance.
Oui, Stéphanie, parce que si on s'accorde sur le faire, on peut diverger sur la compréhension du faire. Et c'est ça aussi qui fait l'unité dans la diversité. Il n'y a pas de système hiérarchique. Alors en France, il y a le consistoire, mais le consistoire est une invention napoléonienne. Fondamentalement, dans le judaïsme, il n'y a pas ce qu'on peut trouver dans l'Église. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pape. Et chacun, en fait, a une certaine liberté dans l'interprétation, surtout dans le judaïsme libéral que je représente, a une liberté d'interprétation de la halakha, de la loi.
Alors je me tourne vers Dominique Lozé. Dominique, vous êtes franc-maçon. Là, on évoque la foi juive, la foi protestante, la liberté, le fer. Il y a une foi maçonnique ?
S'il y a une foi maçonnique, elle est d'une toute autre nature et sur un tout autre registre. Ce qui a été le fondement de la constitution de la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, au XVIIIe siècle, c'est une foi très importante dans la capacité d'une transformation radicale de l'humanité vers davantage de progrès intellectuel, moral et spirituel. Et donc la foi maçonnique, c'est un optimisme sur l'humanité, c'est la conviction que cette capacité d'évolution positive, spirituelle et morale, est possible, et que donc chaque homme a en lui cette capacité de transformation.
Et finalement, notre invité évoquait le fait que la foi et croire, c'était aussi faire. La foi maçonnique, c'est aussi l'agir, d'une certaine façon.
Je pense que parmi les nombreuses choses qui nous rassemblent ici tous les trois, il y a la liberté d'interprétation. Et on peut regretter qu'il n'y ait pas parmi nous aujourd'hui, je pense que c'était une question de calendrier, un représentant de l'Église catholique romaine, mais ce qui a été un des fondements des critiques de l'Église catholique romaine au XVIIIe siècle de la franc-maçonnerie, c'était justement le fait que celle-ci indiquait à ses disciples, à ses adhérents, de rechercher la vérité. Et l'Église catholique disait « la vérité, elle est connue, il n'y a pas besoin de la chercher ». Or nous disons, et je pense nous le disons tous les trois, avec nos mots, alors je dirais avec un clin d'œil « sola scriptura », c'est-à-dire que nous avons chacun notre capacité de discernement face au texte, et que ce discernement, c'est ceci que la franc-maçonnerie encourage.
James Woody, je voulais peut-être rebondir sur cette question justement du dogme religieux et du rapport à la vérité qui est en effet importante pour les francs-maçons.
Oui, nous, dans notre compréhension, la foi personnelle est supérieure à la foi de l'Église. Justement, fin 19e, il y a ce fameux épisode, on demande à Fernand Brunetière ce qu'il croit, et il dit, allez donc le demander à Rome. Tout protestant est considéré comme un pape, la Bible à la main. C'est-à-dire que c'est en son âme et conscience qu'il va élaborer les convictions qui lui semblent les plus fidèles par rapport au dépôt de la foi qu'il a reçue. Ça signifie qu'il y a de la doctrine, c'est du langage religieux, mais il n'y a pas de dogme auquel on devrait soumettre notre conscience. Et c'est en ce sens qu'il y a bien une liberté de conscience individuelle, c'est que chacun peut développer sa propre expression, sa propre compréhension de ce qu'il y a de plus ultime dans la vie pour lui.
Stéphanie van Tittelboom, vous avez ce même rapport justement à la liberté dans l'interprétation du texte et ce rapport à un dogme et une vérité ?
Alors, dans le judaïsme, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de credo non plus, il n'y a pas de « je crois en Dieu » comme on peut trouver dans la foi catholique. On a des commandements, des mitzvot, et encore une fois, on est dans le faire. Et c'est ça, en fait, notre base, c'est l'accomplissement des mitzvot qui sont censés permettre un travail sur soi, d'être de meilleures personnes et d'espérer un tikkun olam, une réparation du monde. Il y a Maïmonide qui a essayé d'établir les 13 points de la foi, mais ça n'a pas été repris. Et visiblement, à l'époque, il a été plus influencé par le kalam et la pensée de l'islam, plus que par le christianisme. Mais c'est pas quelque chose qui appartient finalement à la pensée juive.
Alors, je voulais revenir sur un autre point. Vous représentez tous les trois des traditions. Comment transmettre une tradition religieuse ou initiatique sans enfermer, sans contraindre la liberté de conscience de celui qui reçoit ? Je sais pas lequel veut prendre la parole. James Woody.
Je vais vous dire un peu comment on pense la catéchèse pour les enfants et les adolescents. Dans un premier temps, on leur fait découvrir les textes bibliques, c'est-à-dire les personnages, les thèmes qui sont abordés. Ça leur donne, en quelque sorte, un univers. Et puis, une fois qu'ils deviennent adolescents, l'âge du collège, on commence à leur forger un esprit critique. C'est-à-dire qu'on leur montre comment les textes ont été écrits, l'épaisseur du texte, la critique interne du texte, et surtout, on leur dit à quel point il ne faut pas prendre les textes au pied de la lettre. Et donc, on forge la capacité de nos catéchumènes à devenir des lecteurs et des interprètes du texte biblique. Et puis ensuite, il y a le principe de la pluralité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pasteurs qui peuvent se relayer, qui vont chacun apporter une interprétation, et on voit bien qu'il n'y a pas une uniformisation du discours religieux. Et ça aide les jeunes à comprendre que s'il y a bien quatre évangiles dans la Bible, c'est bien parce qu'on refuse la pensée unique.
Stéphanie Van Tittelboom, comment se passe la transmission de cette tradition ?
Alors, dans le judaïsme, vous le savez certainement, il y a différents courants de pensée et différents mouvements. Donc là, je vais parler pour le judaïsme libéral. La transmission se fait essentiellement au sein de la famille. C'est la famille qui va être porteuse de cette transmission et à travers les enfants. L'implication des enfants dans le judaïsme, dans le rituel, est primordiale. On le voit notamment à travers les fêtes. La plupart des fêtes sont tournées vers les enfants, surtout la fête de Pessah, hein, qui correspond à Pâques, avec le céder de Pessah, où finalement l'enfant il est au centre de l'histoire qui va se dérouler autour de la sortie d'Égypte. Donc c'est l'implication des enfants dans le rituel, dans le faire encore une fois, par des jeux de façon ludique. Et ensuite, c'est l'apprentissage du Talmud Torah. Mais le Talmud Torah, je vais rejoindre le pasteur Woody, c'est l'apprentissage des textes et aussi émettre un esprit critique sur ces textes. Et on rejoint finalement ce qui s'est fait pendant des centaines d'années avec le judaïsme antique, avec la Torah écrite qui est une donnée, qui était Mishamaïm, qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui a été transmise à Moïse, qui est immuable, qu'on ne change pas, et toute l'évolution qui est permise par la Torah orale, qui permet justement cette plasticité au niveau de la pensée.
Alors, l'art oral, je me tourne vers Dominique Lozé, membre de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France est aussi un ordre initiatique traditionnel. Comment elle se transmet, cette tradition, chez les francs-maçons de la Grande Loge de France ?
Alors, chez les francs-maçons de la Grande Loge de France, effectivement, parce que il y a une pluralité de courants dans la franc-maçonnerie. Je pense qu'il y en a autant que dans le judaïsme, et autant de courants francs-maçons que d'ordre monastique catholique ou d'église protestante, c'est peu dire. Et donc, à la Grande Loge de France, nous nous considérons comme un courant particulièrement spiritualiste dans la franc-maçonnerie. Mais notre vision de la tradition et de la spiritualité, c'est justement d'encourager nos membres à une réflexion sur ce qui lie l'humain, on dit souvent l'horizontal, au vertical, c'est-à-dire le divin, avec des outils symboliques ou allégoriques qui leur permettent justement d'être en conformité avec leurs propres convictions religieuses quand ils en ont.
Alors peut-être une dernière question, on évoque aujourd'hui la liberté de conscience. Cette liberté de conscience, elle appelle à l'engagement et questionne le rôle des croyants et des non-croyants d'ailleurs, dans le monde qui nous entoure. Il y a cet engagement interconvictionnel, vous l'incarnez parfaitement tous les trois ce matin par ce dialogue entre vous. En quoi d'ailleurs ce dialogue est une nécessité pour relever les enjeux d'aujourd'hui ?
On voit que on a une société qui est quand même en France très clivée, très divisée, il y a des oppositions terribles, et on voit que nous, ici, nous sommes tout à fait capables d'engager un discours tout à fait fraternel, respectueux, où on ne va pas chercher à prendre le pas sur l'autre, mais à essayer de découvrir ce que l'autre a comme part de vérité qui me fait défaut. Et au fond, on va s'enrichir mutuellement. Donc là, il y a l'idée qu'il y a une fraternité universelle qui m'est tout à fait indispensable pour atteindre, je dirais, un degré d'existence porté à l'incandescence.
Stéphanie Van Tittelboom.
Alors, je vais reprendre une expression qui avait été donnée par Enrico Macias, qui disait qu'il avait la philosophie des ponts. Et moi, je trouve ça très beau, la philosophie des ponts, parce que pour créer un pont, pour fabriquer un pont, il faut être deux. Et il faut chacun partir d'une rive, en espérant se rencontrer au milieu. On peut pas construire un pont d'une rive à l'autre. Il faut vraiment cette convergence. Et finalement, la différence crée ce hiatus qui permet la rencontre avec l'autre. Et cette rencontre, elle est source de richesse. Et à mon avis, elle ne doit pas être vue comme un danger. Et la pluralité de la pensée, pour moi, elle est inhérente à la pensée juive. On le voit dans toute l'histoire des rabbins antiques. Dans le Talmud, ils ne sont jamais d'accord. Et pour autant, on avait des groupes parfois qui s'opposaient beaucoup, comme Hillel et Shammai. Et on dit que Hillel et Shammai, tous deux, sont la parole du Dieu vivant. Donc on accepte en fait cette pluralité de pensée.
Dominique Lozé, en quelques mots, pour conclure.
Écoutez, moi je reprendrai la parole d'une encyclique du précédent pape, Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères.
Merci beaucoup Stéphanie Van Tittelboom, James Woody et Dominique Lozet pour ce dialogue ce matin. Pour conclure, comme à chaque émission, nous évoquons une loge de la Grande Loge de France. Son nom, jamais choisi au hasard, dit quelque chose de l'histoire de ses frères, de l'âme de notre obédience et parfois même d'une certaine vision du monde. Alors que notre monde justement connaît de graves crises, que les nationalismes et les populismes tentent de s'imposer, nous souhaitons rendre hommage aujourd'hui à la loge Pierre Brossolette, compagnon de la Libération à Paris. Pierre Brossolette, homme de parole, qui devant l'imposture, le caractère criminel du nazisme et de la permissivité des démocraties chancelantes, sut dénoncer les faiblesses et les abandons, susciter l'esprit de redressement. Pierre Brossolette, homme de sacrifice, qui pour être sûr de demeurer fidèle à sa parole, à son éthique, à la France, à ses frères, sut choisir la mort délibérée. Cet hommage à Pierre Brossolette, ce sont les mots mêmes d'un autre frère de la Grande Loge de France, les mots d'Hubert Germain, le dernier survivant des Compagnons de la Libération. Pierre Brossolette, initié au sein de la loge Émile Zola, Hubert Germain, initié au sein de la loge James Anderson, et tous ces héros anonymes dont l'exemplarité honore la Grande Loge de France, mais nous rappelle aussi notre devoir au moment de faire des choix. Dans l'actualité de la Grande Loge de France, de nombreuses conférences. D'abord celle de notre invitée de ce jour, Stéphanie Van Tittelboom, le 25 février à Paris, sur le thème « Le droit au désaccord, la liberté dans le judaïsme ». Et un rendez-vous très important, les 5e entretiens PIC de la Mirandole, qui se tiendront le 11 mars prochain, des entretiens co-organisés par la Grande Loge de France et la Grande Loge Nationale Française à Paris, sur le thème « Qui sont les porteurs de lumière ?» avec pour invité la philosophe Françoise Bonnardel. Vous retrouvez toutes les informations sur le site gldf.org. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux, à la technique aujourd'hui d'Ali Yaha et à la réalisation Philippe Baudouin. Très bon dimanche à tous.